Ado.
La sociologie expliquée par les adolescents.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur RVM 93.7. Nous sommes aujourd'hui avec la classe de première de Madame Maurice du lycée Jean Monnet, qui organise aujourd'hui un débat sur la question « La famille permet-elle l'intégration sociale ?» Émile Durkheim, sociologue français, souligne dans ses études sur les causes du suicide l'importance de la famille, le taux de suicide étant plus élevé chez les individus vivant seuls. Au cours de ce débat, vous entendrez parler de l'intégration, donc le processus d'intégration au sein d'une société ou d'un groupe, mais aussi de la famille, le premier ou l'un des premiers groupes sociaux dans la vie d'un individu. À ma gauche, j'ai donc les pour qui avanceront certainement des arguments comme la famille comme premier lien social, qui intègre toujours malgré l'évolution de sa position dans la société. Et à ma droite, j'ai les contres qui parleront certainement que ces évolutions dans la société provoquent des changements dans les solidarités familiales ou alors que l'individualisme nuit aux relations familiales. Pour commencer ce débat qui, je le rappelle, portera sur la famille permet-elle l'intégration sociale, je vais donc m'adresser aux pour et leur donner la parole.
La famille, elle transmet des normes et des valeurs qui peuvent faciliter l'adaptation à la société, comme par exemple le respect, et un enfant respectueux, bah, c'est toujours mieux intégré.
Merci Candice. Est-ce qu'un contre aimerait répondre à cet argument lancé par les pour ? Je vais demander peut-être à Héloïse qui doit avoir un argument pour contrer cela.
Certes, du coup, la famille transmet des normes et des valeurs à ses enfants, mais après, tout dépend aussi de la famille, parce qu'on dit que la famille aide à l'intégration sociale, mais si cette famille n'est déjà pas intégrée elle-même ou a des dysfonctionnements à l'intérieur, il se peut qu'elle transmette de mauvaises valeurs ou encore qu'elle n'en transmette tout simplement pas et l'enfant va se refermer sur lui-même et l'intégration va être moins importante qu'avec une famille traditionnelle ou autre.
Je vais donner la parole à Cerise qui va certainement pouvoir répondre à Héloïse.
Oui, certes, il y a des familles qui ont des dysfonctionnements, mais ça n'empêche que ça a été prouvé par des socialistes comme Philippe Benard que la famille, c'était quand même, ça restait très important. Notamment, il cite trois principes, la conscience commune, l'interaction et la société politique. Donc la conscience commune, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes valeurs ou les mêmes croyances. L'interaction, tout simplement parce que l'enfant va parler avec ses parents, interagir avec les membres de sa famille. Et enfin, politique, parce que dans toutes les familles, on va forcément transmettre nos opinions et nos idées.
Athénaïs, pour répondre à Cerise.
Il peut y avoir des familles auxquelles la communication peut être très bonne, mais il y a des familles dysfonctionnelles qui sont des familles en conflit, donc il n'y a aucun soutien émotionnel, il y a donc des complications sur l'expression des sentiments, et la solidarité du coup familiale peut être dangereuse et voire même fragile, ce qui montre que la famille ne peut parfois pas toujours soutenir l'intégration sociale.
Donc on est sur ce problème de dysfonctionnement de la famille dans nos sociétés actuelles et Candice va peut-être pouvoir apporter un argument des contres sur ce propos.
Moi je voulais juste dire que 60% des individus sont proches de leur famille, donc c'est quand même une majorité.
Sur la question des chiffres, Héloïse va peut-être pouvoir venir contredire Candice.
Certes on a 60% mais ça veut dire qu'on a quand même 40% de familles. Ce qui reste énormément sur l'échelle de la France, qui est dysfonctionnelle ou qui a des soucis, donc monoparentale, en recomposition, ou même tout simplement traditionnelle, mais très mal gérée, entre guillemets, qui peut faire que ça reste une grosse partie de la population.
Un modèle de famille traditionnelle sur la majorité de la population. Cerise, un argument pour les pour.
Même s'il y a des familles monoparentales ou en recomposition, ça ne va pas forcément nuire à l'enfant. Il y a des familles monoparentales où la sociabilisation se passe très très bien. Et c'est pareil pour les familles en recomposition. Donc ça n'a pas forcément de rapport. Enfin, il y a des familles monoparentales où ça se passe très bien, même avec un seul parent.
Des familles monoparentales où ça se passe très bien avec un seul parent, Timothée, qui peut répondre à cet argument lancé par les pour.
Famille monoparentale, puisqu'on est là-dessus, du fait de n'avoir qu'un seul parent, la précarité dans ces familles va être bien plus élevée car il y aura moins de revenus. Et si, certes, le parent seul est un cadre ou du moins une personne riche, il n'y aura pas de problème. Mais dès que ce sera une personne sous-payée, il y aura à ce moment-là un problème.
La question donc de l'intégration sociale par l'argent au sein d'une famille monoparentale. Un deuxième argument des contre, peut-être Mathilde à côté.
Par rapport à ce que Timothée il a dit, 40% des familles monoparentales sont considérées comme pauvres, alors que 13% des familles traditionnelles sont considérées comme pauvres.
13% des familles monoparentales sont considérées comme pauvres. Ténaïs, encore un troisième argument des contre avant de passer peut-être à la question de pouvoir.
Ça montre que les augmentations d'enfants hors mariage, on le voit plus facilement quand c'est à l'école, qu'ils ont beaucoup plus de difficultés dans ce qui est de l'apprentissage, puisqu'ils n'ont pas forcément un soutien dans ce qui est devoir ou même apprentissage d'une matière.
Plusieurs arguments très intéressants lancés par les contre. Est-ce que les pour peuvent apporter une réponse à ces derniers ? Peut-être Louis ?
Tu dis que seulement 13% des familles sont monoparentales, mais il n'y a pas forcément besoin d'être marié pour être heureux. Une famille monoparentale peut très bien transmettre la sociabilité à leurs enfants. Ça reste une minorité.
Une minorité de familles qui n'arrive pas à intégrer leurs enfants socialement n'aura peut-être un autre argument des pour après ces trois arguments des contre.
Et pour revenir sur ce que Louis disait, alors oui, effectivement, la famille monoparentale, en fait, elle ne va pas forcément effacer une personne de la société, parce qu'il y aura quand même un lien social entre le parent et l'enfant. Durkheim, pardon, l'a dit, donc le suicide est lié à la solitude, donc le lien familial, pardon, est important, même s'il est minimal.
La famille monoparentale et le suicide au centre du débat dans les familles, Héloïse, peut-être une réponse des contre.
Si on reprend le fait que la famille est monoparentale, le seul parent peut être une femme. Il est dit que les femmes vont avoir plus de soucis financiers dans une famille monoparentale. Et l'enfant va peut-être se sentir responsable parce qu'il va se dire qu'il est un coût supplémentaire à sa mère. Il va donc vouloir essayer de régler un peu ses soucis. Il va donc se refermer sur lui-même puisque ça va être un sentiment de, pas de honte, mais de responsabilité, de charge sur ses épaules qu'il va essayer d'aider. Donc il va se refermer sur lui-même, il va peut-être moins parler, essayer de trouver un travail très tôt, essayer d'aider son parent. Donc ce n'est peut-être pas très bien pour sociabiliser et rencontrer d'autres personnes puisqu'ils vont être surtout sur ses problèmes et sur sa situation familiale.
La question donc de l'individualisme au sein de la famille soulevée, est-ce que Cerise aurait par exemple une réponse à apporter ?
Sur la question de la monoparentalité d'abord, vaut mieux vivre avec un seul parent dans un cadre correct plutôt qu'avec deux parents par exemple qui vont se disputer. Et à ce moment-là, les normes et valeurs inculquées par l'enfant, elles vont être mauvaises. Ensuite, pour ce qui est de la charge de l'enfant, il y a des personnes plutôt que ça va aider, puis puisqu'ils vont aller au travail plus tôt, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des personnes peut-être avec plus d'expérience, donc ça va pouvoir peut-être les aider dans leur projet d'avenir. Et puis même, ça va leur permettre de développer de l'ambition parce qu'elles vont envie d'avoir aidé leurs parents, leur donner plus d'ambition dans la vie.
L'ambition dans la famille, Héloïse, peut-être une réponse à cette proposition.
Si on reprend ton exemple de famille qui se dispute, on parle encore d'une famille dysfonctionnelle, entre guillemets, puisque les parents vont se disputer, ils vont peut-être même mener à un divorce qui est soit dit en passant, est en train d'augmenter, le nombre de divorces augmente. Et donc, qu'on passe d'une famille monoparentale à une famille qui se dispute, nous sommes toujours dans une famille, entre guillemets, dysfonctionnelle. Je ne dis pas qu'une famille monoparentale est forcément dysfonctionnelle, ça peut très bien se passer, mais c'est souvent plus compliqué. Ça va être plus dur à l'école, ça va être plus dur à la maison. Peut-être que même l'enfant voit moins sa mère ou son père, ce qui va avoir moins de discussions, moins d'ouverture avec ses parents. Donc que ce soit une famille qui se dispute ou une famille monoparentale, ça rapporte un peu toujours à la même chose, puisqu'il va y avoir un problème de communication.
Vous écoutez un débat sur la famille permet-elle toujours l'intégration sociale ? Avec les lycéens et lycéennes de Jean Monnet, de Crépy-en-Valois, de la classe de première d'enseignement moral et civique, de leur professeur Barbara Maurice.
Ce problème de communication soulevé par Héloïse, je guette une réaction sur le visage de Lila qui peut peut-être nous avancer un argument des pour.
Mais en fait, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce que tu dis, Héloïse. Parce que, en fait, dans tous les cas, ça peut mal se passer. Que t'es un parent, que t'en aies deux, ça se passe mal. Comme quoi, dans une famille monoparentale, il y a un parent qu'on voit moins. Enfin, je vois pas en quoi ça aide pas la socialisation. T'as pas besoin de deux parents pour socialiser, si ? Bah non. Je réponds à ta place, non. Et c'est pareil. Dans une famille monoparentale, à aucun moment, enfin, ça doit être quoi, 2%. Il n'y a aucun enfant qui se sent coupable, vraiment 2%, quoi. Ça coupe pas dans la sociabilisation, on s'en fout. Voilà, c'est tout.
On s'en fout. Lila, l'argument des pour de Lila, peut-être. Timothée, une réponse? Timothée, pas de réponse. Par défaut, notre pauvre Héloïse.
Alors, pour les 2%, c'est 23% d'après l'INSEE de familles monoparentales. Et attends, repose. c'est la communication, du coup, que je disais. Le parent va peut-être être moins présent à la maison. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est faux? Peut-être que c'est vrai.
Mais...
Attendez, laisse-la finir, exposer voilà, son propos et je te donnerai la parole après.
Après, tu pourras dire tout ce que tu veux. Le parent est peut-être moins présent parce qu'il doit plus travailler pour gagner plus d'argent, pour subvenir aux besoins des deux personnes vivant dans la maison. Et il est peut-être moins présent parce qu'il a aussi une vie à côté, due à la montée d'individualisme. Il va peut-être laisser son enfant un peu de côté. Ça dépend des parents, après. L'enfant va peut-être être moins présent aussi à la maison. Parce qu'il sait qu'il va moins voir ses parents, enfin sa mère ou son père, ou juste il va trouver la maison seule, etc. Donc je parlais de la communication avec la famille.
Je parlais de la communication avec la famille. Cerise ou Louis plutôt, un argument pour contrer cette proposition.
Si une famille a... Enfin, si un couple a divorcé ou est devenu monoparental, c'est bien pour une raison, c'est que... On ne devient pas une famille monoparentale pour rien, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc ce dysfonctionnement-là aurait forcément provoqué quelque chose aux enfants. Donc,
Cerise, peut-être quelque chose pour enrichir ce propos. Je passerai ensuite la parole au contre.
Puis même, ça veut dire que tu prônes une famille avec deux parents, alors qu'aujourd'hui, on est dans une société moderne et ça peut très bien se passer avec même un seul parent. Enfin, on est dans une société moderne, on n'a plus besoin de deux parents aujourd'hui. Un seul parent, ça peut très bien subvenir aux besoins d'un enfant. Et comme l'a souligné Louis, si la famille devient monoparentale, c'est qu'il y avait un problème de base.
Timothée, sur cette question.
Si les parents divorcent, justement, l'enfant peut très bien ressentir une culpabilité et penser que c'est de sa faute. Ça arrive souvent même.
Jaylis, un argument des pour contrer cela?
Malgré le nombre de divorces qui est en augmentation, on a vu que les gens se rendaient compte que se marier, ça ne servait plus trop à rien. Le nombre de mariages a baissé, mais les gens ont préféré s'orienter vers une autre option, qui est le Pax, qui fait partie d'une logique d'intégration qui permet aux gens de s'unir par lien financier, ce qui va les rapprocher tout autant que le mariage.
Très bien, peut-être Mathilde, un argument.
Par rapport à ce qu'a dit Cerise, on n'a pas dit qu'une famille monoparentale c'était moins bien, mais simplement il y a quand même une baisse de la sociabilité forcément.
Nora, pour répondre à cela.
Même si l'enfant est en présence d'une seule figure paternelle ou même maternelle, l'enfant aura quand même ce qu'on appelle des références ou une instance clé de la sociabilisation. Et en fait, même s'il y a un seul parent, il va quand même pouvoir lui transmettre son langage, ses codes sociaux, sa culture, ses valeurs ou encore ses normes, ce qui va permettre à l'enfant de développer ses relations. Et ça permet également de créer un équilibre, aussi une influence quotidienne. Et en plus de cela, même s'il n'y a qu'un seul parent, le parent va quand même pouvoir fournir de l'amour et de l'attention à l'enfant.
Je vais donner la parole à Athénaïs pour répondre à Nora.
Moi, c'est pas pour répondre à Nora, mais c'est juste pour revenir sur la question du suicide. On a entendu que 60% des personnes étaient très proches de leur famille, sauf que le suicide n'est pas toujours dû à une mauvaise relation avec la famille. Une personne peut très bien avoir de très bons liens familiaux, mais peut quand même se suicider suite à d'autres événements, d'autres sociabilisations.
Je suis tout à fait d'accord. Dans le cadre de ce débat, par contre, on parlait de l'intégration dans la famille, donc on parlait du suicide uniquement dans ce cadre-là. Mais je comprends tout à fait ton propos et tout à fait admissible. Candice, peut-être, un argument des pour.
Mais plus les liens familiaux ils sont forts, moins le taux de suicide il est élevé.
Une question, est-ce qu'il y aurait des autres instances de socialisation qui seraient en concurrence avec la famille? Et je vais peut-être donner la parole aux pour avec Jaylis.
La famille, elle renforce la solidarité entre elles, elle permet l'intégration sociale, car malgré que les familles, par exemple monoparentales, elles sont toutes seules, elles peuvent avoir un soutien familial en passant l'enfant à la grand-mère ou à un frère, par exemple, qui puisse s'occuper de l'enfant pendant qu'eux, ils sont au travail et qui s'occupent de leur situation professionnelle, du coup.
Très bien, je vais me permettre juste de donner la parole malheureusement à Simon qui n'a pas beaucoup parlé.
Moi, je voulais juste signifier que justement, il y a d'autres instances de socialisation que la famille. Et la famille peut permettre de créer un cercle social qui permet d'accéder à ces instances et aussi un statut social.
Eh bien, la parole au contre avec Héloïse.
Justement, ces instances de socialisation, principalement les médias, vont être très accrochées à l'enfant. Et d'ailleurs, si elles s'accrochent aussi à la famille, les médias ou même Internet ou quoi que ce soit, postent des fake news ou des informations totalement erronées et que la famille, elle, y croit, ça veut dire que la famille va transmettre de mauvaises valeurs aux enfants et même les enfants eux-mêmes peuvent trouver de mauvaises informations, être raccrochés à de mauvaises informations dues à certaines choses dites par la famille ou même pensées par eux-mêmes. La famille est en train de perdre son contrôle sur les enfants, sur toute la famille en général, sur la structure de la famille. Et les médias, Internet, prennent de plus en plus de place et remplacent un peu tout ce qui est du contrôle, des valeurs et des pensées des enfants.
Très bien. Eh bien, pour finir ce débat, je vais donner donc la parole à Cerise, qui va peut-être pouvoir nous répondre à cet argument.
Justement, grâce à la famille, les enfants vont pouvoir déceler la désinformation qu'ils vont voir dans les médias en parlant justement avec leur famille. Et de plus, la famille va pouvoir permettre de faire le lien avec la deuxième grande instance de socialisation qui est le travail. Notamment, les parents vont pouvoir donner des contacts à leurs enfants pour entrer dans le monde du travail plus rapidement et plus facilement.
Eh bien, c'est tout pour ce débat. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis à bientôt.
Les sociatos.
La sociologie expliquée par les adolescents.